Voilà, il est 9h, donc nous allons accueillir, nous accueillons Colette, voilà, qui a passé toute la semaine parmi nous, Colette Nismazur. Vous avez sans doute, enfin beaucoup d'entre vous ont sans doute eu l'occasion d'échanger avec elle. Nous avons invité Colette parce que c'est une amie, c'est une amie personnelle, on se connaît depuis quelques années déjà. Depuis Sylvanès, c'est vrai, en 2002 je crois, on s'est rencontrés à Sylvanès toutes les deux. Et puis Colette, c'est une vraie lectrice de la vie, c'est-à-dire que elle la lit chaque semaine, j'ai des échos de ce qu'elle lit très régulièrement. Elle a aussi tenu une chronique qui s'appelait Postscriptum, qui a duré 18 mois, et puis comme c'était une de nos bonnes chroniqueuses, il y en avait d'autres aussi, mais elle écrivait très régulièrement, voilà. Donc et puis quand on avait un petit, chaque fois qu'il y a quelque chose à écrire un peu dans l'urgence, on appelle Colette et deux jours après, parfois même le lendemain, on a un très beau texte. Donc c'est souvent ce qui se passe avec Colette, qui est toujours très généreuse avec nous. Donc nous l'avons invitée parce que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle a une curiosité permanente et que elle va voir toutes les expos, elle écoute beaucoup de musique, elle est vraiment à l'affût de la création d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est très agréable d'avoir une interlocutrice qui est à la fois curieuse, attentive, qui interprète. Je me rappelle, on est allé visiter ensemble une exposition du poète Salas Tétier. C'était magnifique, à la bibliothèque François Mitterrand. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a invitée. Et puis il y a aussi cette dimension chez elle du partage de l'art et de l'attention, enfin du fait qu'elle est très très intéressée. C'est tellement important que tous ceux qui n'ont pas accès habituellement à l'art puissent expérimenter ce travail intérieur que produit la rencontre avec une œuvre. Et là, récemment, elle vous en parlera sans doute, mais elle a fait tout un travail avec des élèves, des apprentis maçons, un travail photographique et poétique. Voilà, donc il y a cette dimension qui n'est pas seulement une relation personnelle à l'art, la relation du poète, mais aussi la relation de la personne qui transmet, qui aime ouvrir des brèches chez ceux qui n'ont pas forcément l'occasion toujours de rencontrer ses œuvres. Voilà, donc je vais lui laisser la parole. Nous lui avons demandé d'être le témoin poète de cette semaine. Voilà, témoin poète. Je pense que c'est vraiment ça qu'on te demande, et je sais que tu as bien compris ce qu'on m'attendait. Merci beaucoup, Colette.
Merci de ces paroles. Je vais peut-être demander de baisser un tout petit peu, parce que je suis un peu éblouie. C'est possible de mettre un peu moins fort la lumière? Oui.
Merci.
Bien. Nous sommes tous plombés par ce qui s'est passé. Et nous sentons bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est suffisamment... Mais j'ai mes genoux qui collent. En fait, j'aimerais bien être debout, mais depuis qu'on m'a recassé une jambe, il m'est difficile de rester une heure debout au même endroit. Donc je suis assise, comme un petit perroquet sur mon perchoir. Mais voilà. Donc je ne peux pas m'approcher, tu comprends? Est-ce que ça vous ennuie? Non, mais dites-moi bien, parce qu'il n'y a rien de plus agaçant que de devoir tendre l'oreille. Hein? Ça va? Bon. Donc, je pense que chaque fois que la barbarie nous accable, c'est un appel à un sursaut d'énergie, de générosité, de désir, de rencontre, d'approfondissement. Et donc, j'avais pensé modifier complètement l'exposé de ce matin. Et puis, je crois que ce serait une grave erreur, parce que d'une certaine façon, ce serait donner raison à ceux qui tentent de nous bouleverser, de nous déstabiliser. Et donc, j'avais décidé de commencer par une sorte d'hymne de reconnaissance. Vous savez que Rilke a écrit « Vivre ici est une splendeur ». Et je pense qu'effectivement, il y a dans la vie quelque chose de l'ordre de la splendeur. Et donc, j'avais envie de commencer par un éloge, un exercice de reconnaissance. peut-être parce que j'ai cette formation de philologue, j'aime beaucoup les mots. J'aime les mots pour ce qu'ils signifient et j'aime les mots pour la façon dont ils résonnent dans notre oreille. Et ce mot de reconnaissance est un mot extrêmement riche. Le premier sens qui nous vient à l'esprit, c'est le sens de la gratitude. Je vous suis reconnaissant de, je vous remercie, je vous exprime ma reconnaissance. Quand on était enfant, quand on revenait de vacances ou d'une fête, on écrivait une lettre de remerciement, on exprimait sa reconnaissance. C'est aussi la reconnaissance de ses dettes. C'est le fait qu'on rend hommage à ceux qui nous ont beaucoup donné, à ceux qui nous ont formés. Et là, je parle en connaissance de cause, puisque nos parents sont morts quand nous avions 7 ans, 4 ans et 2 ans, c'était un jeune couple de 30 ans, et nous avons été élevés par des oncles et tantes. Et toute ma reconnaissance va à ces hommes et ces femmes qui, généreusement, sans aucun besoin, parce qu'ils n'avaient pas besoin de nous, nous ont donné cette preuve que l'amour existe. Donc, reconnaissance comme remerciement, comme reconnaissance de ses dettes, reconnaissance aussi le fait de connaître à nouveau. Je me souviens être allée au théâtre et je rencontre une jeune femme qui vient à moi et je vois dans son regard le petit moment de souffrance parce que je ne l'ai pas nommée tout de suite. Elle me dit « Vous ne m'avez pas reconnue ?» Mais je dis « Si, je te connais, je t'ai eue comme étudiante, mais je ne trouve plus ton nom. » Alors elle me dit son nom, Anne-Cécile. Je dis « Mais tu avais les cheveux longs quand je t'avais comme étudiante. » Je dis « Oui, c'est vrai, je les ai coupés. » Mais combien nous avons besoin de reconnaissance ? Qu'on nous connaisse à nouveau, même si nous avons 50 ans de plus, des kilos, moins de cheveux, etc. Nous avons besoin d'être reconnus, mais aussi reconnus dans notre valeur. Il y a tant de métiers où il n'y a pas de reconnaissance. La dame qui entretient les toilettes, et Dieu sait si c'est important, dans les gares, dans les centres commerciaux, elle n'a pas de reconnaissance. Une femme qui dit « Ah oui, moi je ne travaille pas », alors qu'elle a tout le travail de la maison, toute la gestion de la maison. Il y a beaucoup de moments dans la vie où nous prenons conscience que nous ne reconnaissons pas suffisamment la valeur de quelqu'un. Ça peut aller très très loin, puisqu'il y a des métiers où des gens vont jusqu'à se suicider faute de reconnaissance. Donc, reconnaissance, merci. Reconnaissance, connaître à nouveau et admettre la valeur de, mais il y a un sens de reconnaissance qui s'est incarné dans notre rencontre, qui est celui de l'intrépidité. Au fond, quand on envoie quelqu'un en reconnaissance, je vois l'équipe de Nantes qui est venue en reconnaissance, qui était du terrain, qui a invité ceux de Paris, et ensemble vous construisez une semaine comme celle-ci, dont je reste émerveillée. On est venu en reconnaissance. Et le mot reconnaissance, là, prend parfois un sens extraordinaire. Quand on envoie quelqu'un sur un terrain miné, ce qui se passe actuellement dans des pays comme la Syrie, etc., quand même si les troupes gagnent sur l'ennemi, le terrain a été miné. Et donc, il faut que des gens aillent en reconnaissance, au risque de sauter, pour dire aux autres, vous pouvez venir. Eh bien, beaucoup plus doucement, quand il s'agit d'organiser une fête, parce que j'appelle ça une vraie fête, cette semaine, il y a eu des personnes qui, pendant des semaines, sont venues en reconnaissance, avec toute l'intrépidité nécessaire, avec les risques d'échouer comme de réussir, ou de réussir partiellement, il y a toujours des ombres au tableau. Donc, célébrons la reconnaissance. Je pense toujours à ce que dit Blaise Pascal, éternellement en joie, pour un jour d'exercice sur la terre. Et j'aime beaucoup ce « jeu éternellement pour un jour », éternellement en joie, et Dieu sait si notre vie est constituée de souffrances, de douleurs, mais aussi nous sommes faits pour la joie. La gloire de Dieu, c'est l'homme libre et heureux, disait saint Irénée, éternellement en joie pour un jour, la modestie de ce quotidien, le jour qui nous est donné pour un jour d'exercice, pas des exercices physiques, encore que c'est bien nécessaire, mais aussi exercer ses talents, exercer sa créativité, je vais y venir, d'exercice sur la terre, cette terre qui est la nôtre, non pas la terre du passé ou la terre à venir, mais cette terre qui est la nôtre, ce jour qui nous est donné. Donc voilà, je désirais en guise d'introduction faire acte de reconnaissance à l'égard de tous ceux et de toutes celles qui ont contribué à créer cette semaine tout à fait magique, cette folle semaine de Nantes. Je ne vais pas redire ce que Paul Malartre a dit si bien avant moi, lui qui a enfilé ce beau fil rouge pour relier tous les moments importants. Je vais simplement m'attarder un tout petit peu à ceux d'hier, puisque ceux-là n'ont pas fait l'objet d'un fil rouge. Mais nous savons qu'à travers tous les exposés, que ce soit Sylvie, que ce soit Patrick, que ce soit Dalibor, que ce soit Jérôme, on a envie de les appeler par leur prénom, parce qu'ils ont été ici dans ce qu'ils sont, avec tellement de simplicité. Remercier aussi tous les entrepreneurs de la vie sociale, comme votre responsable de la culture ou celui de la folle journée, dont l'énergie, l'esprit d'entreprise nous a émerveillés. Remercier tous ceux qui ont, au cours des ateliers, bon, je ne connais que l'atelier que j'ai suivi, costumologie, mais qui m'a enchantée, remercier tous ceux qui ont ouvert les journées par ces méditations magnifiques. Je crois que c'est capital de commencer la journée comme nous l'avons fait, par des types de méditation tout à fait différents les uns des autres, sans devoir dire « j'aime mieux, je préfère ». Non, on nous a offert, c'est comme si on avait ouvert un éventail, et nous avons pu goûter, avec des bonheurs plus ou moins grands, tel type ou tel autre de méditation. Alors, cette chance aussi de bénéficier d'artistes de qualité, quel que soit leur instrument, que ce soit la clarinette, que ce soit la guitare, la chorégraphie, le piano, l'icône, quelle grâce de pouvoir être en contact avec la création vive, pas seulement enregistrée, mais vive, avec tous les risques de l'improvisation et de tous ces impondérables qui peuvent brusquement faire tourner la mayonnaise. Hein. C'est très important. Et la beauté des images hier, j'étais suffoquée par la beauté de ce piano à queue de cette merveilleuse pianiste qui a le don de communiquer sa passion. Il y a aussi ces images qui nous restent en mémoire. Enfin, je ne sais pas, peut-être que j'en oublie parce que j'ai tellement aimé aussi les jeunes journalistes et leurs revues de presse. Quelle santé, quel humour, quelle collaboration mutuelle, c'était vraiment un tellement grand bonheur. Donc, reconnaissance vis-à-vis de tout cela. J'en viens alors à mon premier point qui est dénoncer et célébrer. Et c'est en ligne directe. Hein, le création de soi, création du monde. Et j'avais dit à Dominique que j'avais envie aussi de mettre entre les deux termes création d'un monde. Parce qu'à partir du moment où on a pu se créer soi-même, on se crée un monde à soi par toutes les formes de création et de créativité. Je crois qu'on ne peut pas distinguer l'artisan de l'artiste, et je crois qu'il y a une créativité que nous pouvons tous exercer d'une manière ou d'une autre, composer un bouquet, préparer un repas de fête, broder, peindre, jouer de la musique, composer de la musique, écrire des livres, toutes ces formes de création de soi et de création d'un monde à soi, d'un monde original, singulier, et qui va se conjuguer pour former un très beau pluriel, la création du monde. Nous sommes tous partie prenante de cette création du monde qui est le nôtre, qui, en dépit de sa barbarie, est aussi un monde qui nous appelle à la beauté. Quand j'étais enfant, la religieuse qui s'est beaucoup occupée de moi à la mort de mes parents me disait « Tu sais, Colette, la poésie, le poète, c'est quelqu'un à travers qui chante la création. » Et donc j'ai grandi dans cette idée que la poésie, ce n'était pas un art narcissique, un art uniquement d'expression de soi, de ses sentiments, mais c'est quelqu'un à travers qui chante le monde. C'est magnifique. Alors, je vous disais dénoncer et célébrer. Dénoncer, malheureusement, nous sommes en train de dénoncer cette barbarie, quelle que soit son origine, parce que honnêtement, nous sommes bouleversés par cette centaine de victimes à Nice. Nous oublions qu'il y a une semaine ou deux, il y en avait plus de 300 sur un marché d'un pays plus lointain. Nous sommes directement touchés par ceux qui sont les nôtres. Mais tous sont les nôtres. Hein? Tous. Je pense à ce que dit le poète Guy Levic. Le matin t'est donné, ne le prends pas comme un dû. Lorsque nous dénonçons le malheur du monde, nous ne pouvons pas oublier que chaque matin tout recommence et que tout recommence à la fois dans la dénonciation et dans la célébration. J'ai eu la chance de vivre une journée avec ce magnifique écrivain qui est Michel Tournier. Il était venu tout près de chez moi dans la grande école de Saint-Luc, invité par les élèves d'art graphique qui avaient illustré ses contes. Et le directeur de l'école m'avait demandé de tenir compagnie à Michel Tournier, ce qui était extrêmement agréable. Et il a commencé la journée de façon très, très intéressante. Quand je suis allée le chercher, il m'a dit, au fond, dans la littérature, mais on peut étendre ça à tous les arts, il y a deux grands courants. Il y a le courant de la dénonciation et le courant de la célébration. Et l'un et l'autre sont indispensables. On ne peut pas oublier ni l'un ni l'autre. Il dit, même si vous et moi, nous sommes davantage dans le courant de la célébration, nous dénonçons aussi tout ce qui va de travers. Et j'ai relié ce qu'il me disait à ce poème, ce bref haïku de Issa, un poète japonais, qui dit, dans ce monde, nous marchons sur le toit de l'enfer et nous regardons les fleurs. Dans ce monde qui est le nôtre, pas le monde d'hier ou de demain, dans ce monde, nous marchons. Et j'aime beaucoup le « nous » collectif et le verbe « marcher ». Marcher, c'est se mettre en mouvement. Rappelez-vous l'émotion qui fait action, comme nous en a parlé Sylvie Barnet. Nous marchons sur le toit de l'enfer. Bien, c'est ce que nous vivons à l'instant présent. Et la petite particule de liaison est capitale. En même temps, simultanément, nous regardons. Et regarder, ce n'est pas la même chose que voir. C'est regarder avec attention. Et nous regardons les fleurs, pas seulement les fleurs, comme nous en avons vu de très belles tout à l'heure, mais tout ce qui fleurit sur les visages, dans les paysages, partout autour de nous. Cette conscience aiguë de la beauté du monde toujours en action. Donc à la fois dénoncer et célébrer. Dénoncer le mal, bien sûr, autour de nous et en nous. Autour de nous, il est tellement visible aujourd'hui que je n'ai pas envie de commencer cette litanie, cette déploration. Mais en nous, c'est plus subtil. Hein. Quand vous pensez à tout ce qu'il y a en nous comme force de ténèbres, contre lesquelles nous avons à allumer et rallumer sans cesse la veilleuse du tabernacle finalement. Toutes ces peurs, je suis frappée combien la peur est en quelque sorte le tissu de nos vies, sur lequel nous brodons tout ce que nous créons. Mais depuis l'enfant jusqu'à la mort, nous avons peur. Enfant, nous avons peur du noir. Nous avons peur de lâcher la main de notre maman dans la foule. Nous avons peur quand nous devons déloger une nuit ou deux, combien de fois dormir, de ne pas revoir nos parents. Et puis ça arrive aussi, nous, nos parents sont morts en deux mois de temps. Nous avons cette peur de ne pas aimer, de ne pas être capable d'aimer et de ne pas être aimé. Nous avons peur de ne pas grandir, de ne pas pouvoir nous former, exercer un métier, garder ce métier. Nous avons peur de vieillir et nous avons peur de la façon dont nous allons mourir. Nous sommes tissés de peur. Mais à partir du moment où nous reconnaissons, je remplis encore le verbe reconnaître, à partir du moment où nous reconnaissons cette existence de la peur au cœur de notre être, nous sommes capables de l'affronter avec lucidité et de construire. Marguerite Yourcenar, qui est une des écrivaines que j'admire particulièrement, répondait à un journaliste qui lui faisait remarquer qu'elle était pessimiste. Elle lui a dit « Pessimiste, optimiste, ces mots n'ont pas de sens. Ce qui compte, c'est de garder les yeux ouverts. » Et donc, ouvrir les yeux sur notre peur bien réelle nous permet de mieux l'affronter et de mieux la contrebalancer par toutes les formes de création. Création de soi, création d'un monde, création du monde. Il n'y a pas seulement la peur, mais il y a aussi l'à-quoi-bon, le découragement. Combien de fois nous avons envie de laisser tomber les bras? Non, c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop... Et puis nous sommes lestés aussi. Nous sommes lestés par le poids des regrets. Tout ce que nous aurions voulu faire et que nous n'avons pas pu faire faute de temps ou de moyens. Par tous les remords, le mal que nous avons fait, parce que nous ne sommes pas des anges. Partout le poids des rancunes, parce qu'il nous est difficile de nous débarrasser d'un ressentiment à l'égard de ceux qui nous ont fait du mal. Nous ne sommes absolument pas des anges. Et donc, tout au fond de nous, il y a ces ténèbres qui continuent à pourrir. Et c'est tout un travail quotidien de dénoncer ce mal qui est en nous de manière à nous ouvrir à la célébration. Cette célébration, célébrer. Célébrer, c'est dire que c'est bon. Célébrer l'anniversaire de quelqu'un, c'est dire « je me réjouis que tu existes ». Et comme disait Maurice Bellet, « et je ferai tout pour que tu le deviennes davantage. Tu es toi, tu n'es pas moi. Je t'aime tel que tu es et je ferai tout pour que tu le deviennes davantage. » Donc célébrer l'anniversaire de quelqu'un, c'est se réjouir de l'être d'un autre et du fait qu'il ait une année de plus. Moi, ça me fâche quand on dit « ah oui, tu as une année de plus ». Mais quelle chance d'avoir une année de plus. C'est un cadeau quand même. Mais moi, mes parents sont morts à 30 ans. Ils auraient bien aimé vieillir. Je trouve qu'il y a quelque chose de scandaleux de se plaindre de vieillir alors que c'est donné à si peu de monde finalement. Bien sûr, on perd des choses, on perd des cheveux, on perd pas tout ce qu'on veut. On perd de la vue, de l'ouïe, mais on gagne aussi. On gagne en confiance dans les êtres, dans ses propres ressources. Et dans la bonté du monde, et dans la beauté du monde. Ce qui entre dans notre célébration, elle nous vient de beaucoup d'horizons, au fond. Tout à l'heure, nous avons vu des images magnifiques de la nature, et on nous a rappelé le cantique de saint François d'Assise. C'est fou combien la nature ne cesse de nous apaiser, de nous renouveler. Chaque saison, ben moi je suis une femme du Nord, donc j'aime beaucoup la pluie, j'aime les nuages, je n'en vis pas du tout les ciels éternellement bleus, et je m'émerveille à chaque saison de cette chance extraordinaire de vivre ce mouvement d'une année. Donc la joie, la beauté qui nous vient de la nature, et de la nature sous toutes ses formes, la montagne, la mer, la forêt... Peut-être qu'en avançant en vie, j'aime mieux le mot avancer en vie que vieillir, bien que bon, un bon vin a vieilli, mais je trouve que c'est un mot qui est entaché un peu de dépréciation, disons. Tandis que avancer en vie, c'est aller de l'avant, acquiescer à sa vie, l'assumer d'un bout à l'autre. Moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment je vais mourir, enfin, il y a quelque chose d'excitant dans la découverte de soi jusqu'au bout. Donc, je pense que la nature, c'est capital. J'ai une vieille amie qui va devoir entrer en maison, en seigneurie, comme on dit en Belgique, on ne dit pas maison de repos, on dit la maison des seigneurs, des seigneurs, c'est une seigneurie. Magnifique, hein, bon. Elle me dit, c'est égal, pour autant que je puisse avoir un petit bac pour faire pousser des fleurs et une plaque pour faire un peu de cuisine, parce qu'elle a aimé ça toute sa vie. Et je crois que ça touche à beaucoup de choses, ça. Quand on est hospitalisé, je me rappelle lors d'une hospitalisation, j'étais tout en haut de l'hôpital, et heureusement, je voyais le faîte des arbres et les nuages. On a toujours les merveilleux nuages, comme disait Charles Baudelaire. Donc, il y a toujours un coin de nature possible. Je pense à ce magnifique poète qu'est Nazım Hikmet, le poète turc. Il était prisonnier politique, donc enfermé derrière des barreaux. Il était malade aussi, donc il était doublement prisonnier de l'infirmerie de la prison. Et un jour où il est dans cette infirmerie de la prison, il sent le parfum des œillets sauvages. La fenêtre est ouverte, il fait très chaud. Il voit un sentier qui s'en va à travers les mûriers. Et il se dit que tant qu'on peut respirer l'odeur des œillets, c'est comme si on n'était pas captif. Le tout, c'est de ne pas se rendre. C'est d'être capable de goûter la beauté en toutes circonstances. Donc, célébration de la beauté à travers la nature, mais aussi à travers les liens. Tous ces liens qui nous constituent. Ce réseau de liens qui nous est consubstantiel. Nous venons d'un homme et d'une femme, qui eux venaient d'hommes et de femmes. Nous sommes pris dans ce merveilleux arbre généalogique. Et nous allons, nous aussi, produire des enfants. Nous en avons produit selon le sang, selon le cœur, selon l'âme. Je ne idéalise pas uniquement la maternité selon le sang. Il y a tant de façons d'être père et mère. J'évoquais cette religieuse qui a tellement compté pour moi. Ça a été ma véritable maman, finalement. Donc, ces liens avec les proches. Et combien c'est important de toujours renforcer ce tissu des liens. Vous savez combien nous sommes fragiles, combien nous sommes vite blessés si quelqu'un que nous aimons bien oublie notre anniversaire ou bien oublie de nous reconnaître dans une foule. Combien tout de suite nous nous disons, mais on dirait que je ne compte pas pour lui. Alors ça me rappelle ce psaume qui dit que nous sommes inscrits dans la paume de la main de Dieu et que lui ne nous oubliera jamais. Nous avons besoin, nous, d'être des artisans de ce remaillage perpétuel. Tout ce qui s'effiloche, tout ce qui se déchire, ce qui seront toujours remaillés, retissés, pardonnés, aller au-delà du don, ne jamais être ceux qui mettent de l'huile sur le feu, mais au contraire, refuser de colporter les rumeurs, les méchantes choses que les uns disent sur les autres. Je crois que c'est saint Benoît qui disait, ne dites jamais à un frère ce qui pourrait diminuer son estime pour un autre frère. Même ça, ne pas ajouter des ombres au tableau. Donc, goûter des liens très proches, mais aussi des liens lointains. C'est fou comme à travers le monde, nous tissons des liens avec des amis qui sont partis à l'autre bout du monde, que nous continuons à relier par Skype, par le téléphone, par les petits textos, etc. C'est tellement riche. Je crois qu'une partie de notre énergie peut être vouée à cela. Tout à l'heure, Dominique évoquait l'importance d'être des intermédiaires, des médias, une passerelle, des passeurs, des passeuses. Donc c'est vraiment dans ce sens de la conscience aiguë d'appartenir à une communauté. Alors l'art, bien sûr, hein, l'art de la vie et la vie de l'art, toutes les formes d'art. J'aime bien le conte de Mille et une nuits qui nous raconte l'histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs, cette caverne dont on peut trouver la clé grâce à Homo magique qui va permettre d'entrer dans cette caverne. Je crois que nous sont offerts tous les arts. C'est ce que nous avons vécu tous ces jours-ci. On nous a donné des clés, des mots de passe pour pouvoir entrer dans des arts qui ne nous étaient pas nécessairement familiers. Je pense à la manière dont Dalibor ou bien Jérôme nous ont permis d'appréhender, dans le sens de prendre, de saisir, et non pas d'en avoir peur, c'est un drôle de mot, appréhender, hein. J'appréhende l'avenir, mais on appréhende un voleur, ici nous appréhendons l'art. Ils nous ont permis de dépasser ce stade primaire que dénonçait Sylvie Barnet, j'aime, je n'aime pas. Non, aller en confiance vers ce qu'on ne connaît pas, par des chemins qu'on ne connaît pas, mais en étant convaincu que ça en vaut la peine. J'étais frappée hier en écoutant celui qui nous a parlé des icônes, combien même des choses très très anciennes ont besoin d'un passeur, d'une passeuse pour entrer dans un domaine qui sans cela ne pourrait être connu que très superficiellement. Donc aussi bien les œuvres d'aujourd'hui, plus que contemporaines, celles qui se font, qui s'écrivent, qui se peignent, qui se jouent aujourd'hui, nous avons besoin que quelqu'un ouvre la porte et dise « Vas-y, entre, c'est pour toi, ça t'appartient. » Dominique évoquait cette expérience que je viens de faire avec 12 jeunes maçons et dont est sorti ce tout petit livre qu'ils ont réalisé. Vous voyez, c'est un format très modeste parce qu'il n'y avait pas, de sous. Hein. Et donc, ces garçons qui terminent leur cycle secondaire en maçonnerie ont une très mauvaise opinion d'eux-mêmes qui est répercutée par les autres. Hein. Oh, ce sont des maçons, ils ne sont pas capables de s'exprimer. Et ils ont un professeur de français qui est assez génial et qui les aide à prendre confiance en eux-mêmes. Et donc, il est venu me trouver en me disant « Est-ce que vous pourriez m'aider à réaliser leur désir, un album de photos avec des textes ?» Moi, je suis toujours partie prenante pour ce type d'aventure parce que je suis convaincue que le plaisir de la beauté appartient à tous. Et donc, j'ai dit « Mais d'abord, il faudrait qu'ils apprennent à faire de vraies photos. » Donc, nous avons trouvé un animateur en photographie, des appareils très sophistiqués qu'ils ont eu à prêter, 9 appareils pour 12 maçons. Et donc, avec eux, j'ai réfléchi aux thèmes qui les intéressaient. Il y en avait un qui avait envie de parler du chemin qui va de la maison à l'école, ou de parler des ouvriers, de parler des outils du maçon, ou de la vie, de l'atelier, du chantier, etc. Chacun a choisi un thème, et sur ce thème a pris une quantité de photos Parmi elles, il en a choisi trois. Puis je les ai emmenées dans une grande exposition, une rétrospective d'un grand photographe qui était présent. Et donc c'est la première fois de leur vie qu'ils entraient dans une maison de la culture, qu'ils entraient dans une exposition. Ils étaient sidérés par le silence, qu'ils sont toujours dans le bruit du chantier, dans le bruit de leur musique dans les oreilles, stupéfaction. Et puis le photographe était là et leur a parlé de toute l'évolution de son travail. Le commissaire de l'exposition leur a expliqué comment on montait l'exposition. Puis moi, je les ai récupérés et j'ai recueilli leur réaction à vif. Tous les mots qui leur venaient. Et puis au fil des semaines, j'ai mené avec eux des ateliers pour qu'ils travaillent sur les trois photos qu'ils avaient sélectionnées. Et il en est sorti ce petit livre, modeste, fait de photos et de textes. Et puis je leur ai dit, mais au fond, on vit dans un pays, la Belgique, où il y a trois langues. Si on traduisait en néerlandais, pour commencer, et nous avons demandé au poète national, puisque en Belgique, il y a un poète national, tous les deux ans, il y a un flamand, puis l'année, deux ans plus tard, un ou une wallonne, et donc on a demandé au poète flamand de nous aider à traduire ces textes. Si on avait eu un peu plus de temps et un peu plus d'espace, on l'aurait fait en allemand aussi, puisqu'il y a des cantons, trois cantons en Belgique, où l'on parle allemand. Et donc, on a fait une vraie fête pour ça, avec la presse, toutes les formes de presse. Et vous, enfin, ce qui compte, c'est l'émerveillement de ces 12 garçons, dont on m'avait dit au départ, « Oh là 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 là, mais ce sont des tueurs !» Et c'est vrai qu'ils avaient une apparence, parfois originale. Mais alors, mais vous n'imaginez pas le lien qu'on peut créer. Ouais, bon, ils pourraient être mes petits-enfants, hein. Mais le bonheur, eux, c'était toujours Madame Colette par-ci, Madame Colette par-là, d'une délicatesse, d'une courtoisie. Et donc, le jour de l'inauguration, qu'ils ont changé parce que j'étais à Mexico pour la poésie au moment où devait sortir le livre, et donc on a changé la date, et leur fierté, il y en avait qu'un ou deux qui avaient accepté de lire son texte au micro. Mais tout à coup, voyant leurs parents, voyant, ils ont pris confiance et ils ont lu eux-mêmes leur texte. Écoutez, c'était magnifique. Alors je trouve que là, tout à coup, on crée des liens et on crée de la beauté avec des gens qui au départ se croyaient interdits de séjour. Et je suis certaine que ces garçons verront la photo autrement, liront des textes, je leur ai offert à chacun un livre. Enfin, c'est une belle expérience. J'en ai fait d'autres du même type, que ce soit en prison ou avec des gens en réinsertion sociale. Pour moi, c'est capital. Donc, l'art peut être une passerelle. L'art sous toutes ses formes. Alors, j'en viens tout doucement à la poésie, puisque vous m'avez invité aussi comme poète. Je vous ai dit que cette religieuse m'avait mise sur la bonne voie en me disant « Le poète, c'est quelqu'un à travers qui chante la création. » Donc cette idée d'être simplement un lieu de passage, il n'y a aucune vanité. On a tellement conscience d'être un tout petit bout de tissu dans cet immense tissu de la création. Tous les créateurs avant, à côté, devant nous, mais ce petit bout de tissu, sa matière, sa couleur, sa forme est unique. Donc c'est à la fois, ce n'est que cela, mais c'est cela. Il y a cette extrême modestie de la participation de chacun qui est essentielle, bien sûr, par siècle, il y a deux, trois génies, et tant mieux. Mais tout le monde n'est pas Picasso ou Litz. C'est pas grave, c'est pas une raison de se décourager. Que jamais le perfectionnisme ne tue notre élan. C'est un grave défaut, nous le savons, quand nous élevons des enfants dans une famille nombreuse, nous savons bien qu'il y a des enfants qui sont perfectionnistes et qui parfois préfèrent détruire le dessin qu'ils ont raté plutôt que de le poursuivre, alors que d'autres vont transformer le trait raté et faire quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment important de prendre confiance dans cette possibilité-là. Il me semble que pour être poète ou musicien ou peintre, quel que soit le type d'exercice, au sens où Pascal le disait, nous avons besoin de développer deux, trois qualités de base. Et la première me semble être la vertu d'attention. C'est un très beau mot, l'attention. Quand on est enfant, on n'arrête pas de nous dire « fais attention, tu vas tomber ». Ou bien « fais attention, tu marches sur les pieds de telle personne ». Donc, l'attention prudence, l'attention respect. Mais quand on grandit, quand on étudie, on nous invite à l'attention concentration. quand tu travailles, quel que soit le travail, quand tu étudies, tu as besoin de ne pas te laisser distraire, pas emporter par la musique, un coup de téléphone. C'est l'attention concentrée qui vise un objectif. Mais à côté de ça, il y a l'attention créative qui est une attention rêveuse, flâneuse, vagabonde, buissonnière, si vous voulez. On ne sait pas où on va. Je reviens à ce que je disais au début. Reconnaissance vis-à-vis de ceux qui ont conçu cette semaine. Dominique et toute l'équipe de Nantes et toute l'équipe élargie. Au départ, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Oui, à quelques points de repère, mais ensuite, c'est pas, on compose au fond. Finalement, la création, c'est une composition. On compose à partir d'éléments. Dieu crée à partir de rien, mais nous, c'est pas à partir de rien du tout. C'est comme un bouquet dont on assemble les fleurs en fonction de leur couleur, en fonction de leur taille, de leur volume. Eh bien, c'est pareil. Dans la création poétique, comme dans toutes les formes de création, il y a le développement de cette vertu d'attention, et plus particulièrement de l'attention rêveuse, qui n'a pas tout de suite en vue un but précis. Deuxième vertu, parce que ça appartient, l'attention, elle est de l'ordre de l'éveil. Elle est de l'ordre de l'éveil, et très souvent l'éveil par les cinq sens. L'ennui, enfin, je parle pour moi, c'est magnifique d'être poreux à tout ce qui se passe dans le monde, mais c'est en même temps extrêmement inconfortable. J'ai eu la chance, sur les pas de Pierre, de découvrir le passé négrier de cette ville de Nantes, mais je vous avoue que la nuit suivante, je n'ai pratiquement pas dormi, tellement j'ai été bouleversée par tout ce que j'ai découvert, que je savais intellectuellement, mais que je ne connaissais pas par le corps. Être dans le mémorial, être dans les étages du musée qui concerne la traite, c'est quelque chose de bouleversant. Donc, cette espèce d'effervescence intérieure, elle est à double tranchant. Elle est à la fois magnifique et terrible. Je pense que si je n'écrivais pas, je deviendrais folle. Parce que c'est comme si on était... poreux, c'est très difficile. Donc, l'attention a comme envers cette extrême fragilité, cette extrême vulnérabilité, le fait de tout recevoir de façon presque catastrophique. Mais alors, autre élément très important, c'est la résolution. La veille continue. Au fond, il y a l'éveil, mais il y a la veille. Vous savez très bien que commencer, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de durer. C'est de veiller, c'est d'entretenir. Dans les liens entre les personnes, dans l'exercice d'un art ou d'un métier, si nous n'entretenons pas nos connaissances, si nous n'aiguisons pas sans cesse l'outil, nous déclinons, nous nous répétons d'abord. Avoir l'audace, de nouveau j'en reviens à ma reconnaissance comme intrépidité, d'avoir l'audace d'aller vers ce qui est risqué. Vous savez, quand un livre marche bien, entre guillemets, l'éditeur vous dit « attends avec impatience le suivant » et il voudrait que vous répétiez le suivant. Et il faut beaucoup d'énergie pour dire « mais non, je ne suis pas prête, je médite un autre livre qui ne ressemblera pas au premier, avec tous les risques que cela comporte ». Et dans tous les arts, c'est comme ça. Nous distinguons bien entre les créateurs mineurs et les créateurs majeurs, sans parler des génies. Si l'on admire tellement Picasso, c'est parce qu'il a tâté de tous les matériaux, il a tâté de toutes les écoles, mais il a été surtout lui. Donc, veiller à entretenir, veiller à renouveler, veiller à aiguiser, c'est tout à fait capital. Et cet éveil, donc cette attention, cette veille, cette volonté de poursuivre le travail entrepris, vont déboucher sur l'émerveillement. Mais j'aimerais évoquer un livre d'une romancière actuelle que j'admire beaucoup qui s'appelle Nancy Huston. Nancy Huston, vous avez certainement lu Prodige, qui est un des plus beaux de ses livres, que je vous conseille, il est en poche chez Babel, et il raconte toutes des générations de femmes pianistes. Mais ce n'est pas de celui-là que je veux parler, c'est de Dolce Agonia, qui raconte une nuit du Thanksgiving Day, où tout un groupe d'amis se retrouve, ils ont la cinquantaine, et ils ont été jeunes ensemble, ils ont partagé des communautés d'artistes, etc. Et donc on va les suivre depuis l'après-midi où on commence à préparer la dinde, jusqu'à l'aube, parce que la neige va les empêcher de repartir le soir. Donc ils vont passer de nombreuses heures ensemble. Et à un moment donné, une des voix narratives regarde ses amis qui sont un petit peu avachis en fin de soirée par l'alcool, les conversations. Et il voit celui qui est devenu un écrivain réputé, il voit celui qui est devenu un peintre notoire. Et il n'a pas de jalousie, parce que lui qui a été un artiste peintre, à un moment donné, comme il sait très vite, il a eu une compagne, il a eu des enfants, il fallait qu'il les fasse vivre, et donc il est devenu peintre en bâtiment. Et il n'est pas du tout jaloux. Il dit, et c'est pour ça que je parle de ça, il dit, je n'avais pas la cruauté, l'égocentrisme et la résolution nécessaire pour faire un artiste. La cruauté vis-à-vis de soi-même, mais aussi parfois vis-à-vis de son entourage. Vous pensez bien qu'il y a des moments, quand on crée quoi que ce soit, où tout à coup on est inaccessible. On est dans un autre monde. Je me souviens si bien d'un été où j'étais à la mer avec ma bande de gosses et où je terminais un livre et une de mes filles m'a dit des années plus tard, « Ouh, je t'ai détesté cet été-là, parce que tu étais avec nous, tu faisais tout ce qu'il fallait, mais on sentait bien que ta tête était ailleurs. » Et c'est vrai. Mais alors elle a ajouté, « Mais je te rends grâce maintenant, parce que dans mon travail, elle est metteur en scène de théâtre, moi aussi, il y a des moments où je suis intouchable, et je me dis que tu m'as montré la route. » Donc voilà. Mais il faut de la cruauté. Il faut de la cruauté, il faut une sorte d'égocentrisme, mais attention, pas un égoïsme, mais à certains moments être centré sur le noyau profond de soi-même. J'aime beaucoup ce que dit Henri Beauchot, un grand écrivain belge qui est mort il y a très peu de temps, il allait avoir 100 ans. Il disait, le vitrail travaille la lumière, l'écriture, l'obscurité intérieure. Et donc, pour que l'écriture travaille l'obscurité intérieure, il faut être centré à certains moments sur ce noyau intérieur. Donc, cruauté, égocentrisme et résolution. C'est-à-dire, on trace, on traverse, on avance. Un livre a du succès ou de la musique a du succès, il n'en a pas, on y va. Il y a une espèce de résolution qui se moque des effets immédiats. Vous comprenez, enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais il y a un travail vraiment à faire. Donc, dans ce travail poétique, il y a ce travail sur le matériau de la langue, sur les mots de la langue, sur les rythmes, sur la musique, sur les images, toutes les métaphores. La poésie, l'air de rien, est aussi, comme l'architecture, un art qui englobe beaucoup de choses. Et comme la poésie est liée à notre langue maternelle, elle va très loin, elle est très viscérale, mais elle doit aussi elle doit passer vers l'autre, elle doit rencontrer l'autre. René Guy Cadou, immense poète qui a habité tout près d'Angers, disait « Mais pour apprendre à écrire, il nous a fallu apprendre à vivre, c'est-à-dire à souffrir et à aimer. » Et je pense que c'est profondément vrai. Il y a cette faille, cette vulnérabilité et cet amour partagé, cette communion. Je vois que l'heure avance et je ne vais pas abuser de votre temps. On a beaucoup réfléchi tout au cours de ces journées au rapport entre la spiritualité, le sacré et l'art. Et j'ai épinglé chez l'agnostique Albert Camus cette phrase « Qu'est-ce que je médite de plus grand que moi et que j'éprouve sans pouvoir le définir ?» Il me semble qu'en tout homme, en toute femme, il y a ce passage du souffle, cette aspiration à plus grand que soi. À Thésée, qui est la colline sur laquelle je vais reprendre des forces, où mon frère médecin est moine, il y a un chant qui a été composé par un frère qui est très doué en musique, à partir d'une phrase, c'est de Grégoire de Nazianze, « Toi, l'au-delà de tout, tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. » Il me semble que c'est vraiment ça qui nous habite. Nous avons, dans ces temps tellement troublés, tellement violents, apporté témoignage de la foi, de l'espérance et de cet amour qui nous traverse. Je ne dis jamais, moi, j'ai la foi, parce que ce n'est pas un objet qu'on trouve, qu'on perd, qu'on retrouve. J'essaie de croire jour après jour, à travers ombres et lumières. Donc, cette foi que nous essayons sans cesse d'approcher, cette espérance. L'espérance des lendemains, ce sont nos fêtes, disait C'est le poète Rudebeuf au Moyen-Âge. L'espérance des lendemains, ce sont nos fêtes. À certains moments, ce qui nous propulse, ce qui nous fait avancer, c'est l'espérance de la lumière que l'on aperçoit au bout du tunnel. Nous traversons tous ces périodes tellement sombres, tellement noires, à cause de souffrances individuelles ou celles de nos proches qui nous atteignent encore plus violemment. Mais au bout du tunnel, il y a cette lumière dont nous gardons le souvenir, parce que nous venons de la lumière et nous allons vers la lumière. L'espérance des lendemains, ce sont nos fêtes. Je pense aussi à Charles Péguy, sa petite fille Espérance, qui entraîne la foi et la charité. Et cet amour dont nous avons bénéficié. Je me dis toujours, la mort de nos parents a été un deuil réellement, a été une souffrance violente, une faille, une brèche, dont nous avons porté les effets parfois beaucoup plus tard, parce qu'au moment même, comme tous les enfants, il y a une telle puissance de vie dans les enfants. J'avais toujours l'impression d'être sur la pointe des pieds et que l'eau montait et qu'il fallait garder la tête hors de l'eau et essayer de comprendre ce que les grandes personnes voulaient pour ne pas sombrer. Et c'est parfois beaucoup plus tard qu'on prend conscience de ce que c'est que d'être séparé si tôt de ses parents. Mais cet amour qu'on nous a donné pour rien, cet amour gratuit, ça donne une confiance infinie dans les ressources de l'être humain et dans les ressources des êtres entre eux et dans cet amour de Dieu qui porte tout. Donc on peut porter témoignage de cette confiance-là. J'aimerais bien terminer par deux poèmes. Le premier poème, c'est un poème de Jules Supervielle que je vais essayer de dire par cœur parce que j'ai toujours étudié et appris à mes enfants, mes étudiants, beaucoup de poèmes. Jules Supervielle est un merveilleux poète du XXe siècle qui, toute sa vie, a gardé l'esprit d'enfance. Et dans ce poème, je crois que c'est vraiment une sorte de résumé, j'aime pas tellement le mot résumé, de condensé, de ce que nous avons vécu au cours de cette magnifique semaine et de ce que ceux qui m'ont précédé ici ont tenté de faire passer. Parce qu'il recrée le mouvement de l'être humain chaque matin lorsqu'il s'éveille, qu'il doit se reconstituer et aller vers le jour qui vient. Il dit « Encore frissonnant sous la peau des ténèbres, tous les matins je dois recomposer un homme ». Avec tout ce mélange de mes jours précédents et le peu qui me reste de mes jours à venir. Me voilà debout, tout entier. Je vais vers la fenêtre. Lumière de ce jour, je viens du fond des temps. Respecte avec douceur mes minutes obscures. Épargne encore un peu ce que j'ai de nocturne, d'étoilé en dedans, et de prête à mourir sous le soleil montant qui ne fait que grandir. Magnifique poème, comme vous le voyez. Et j'aimerais terminer par un de mes poèmes qui s'appelle « Projet ». Parce que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Nous mettons donc un terme, c'est jamais achevé, il n'y a que les condamnés à mort qu'on achève. Hein. Mais donc, ce projet que j'ai écrit il y a très longtemps, c'est un des premiers poèmes que j'ai écrit au rythme des verbes à l'infinitif, parce que le verbe à l'infinitif, le mode infinitif est un mode très plein, c'est pas la même chose que de conjuguer à tous les temps. Délivrer les sources, célébrer les silences et leur ouvrir les ailes, crier la vie muette, timide, désarmée, ameuter les rêves, marcher dans le fil du jour, maintenir le cœur sur le cadran solaire, divulguer l'amitié, créer dans la torsion de l'être, ravir le secret vital. Je vous remercie de votre attention.